Bonjour et bienvenue dans l'émission Les mots des livres. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec des invités. Tout d'abord l'autrice Claire Elder pour son roman par aux éditions J'ai lu, La botanique des amours perdus. Puis nous retrouverons la journaliste et scénariste Carole Coulinet pour l'album de bande dessinée Les Irradiés de l'île Longue, enquête sur un silence d'État. C'est Eric Appéré qui est au dessin et c'est à retrouver aux éditions Dargaud. Puis enfin l'émission, je vais vous donner quelques idées de cahiers de vacances ludiques pour les adultes. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site idfm98.fr. On se retrouve juste après ça avec notre invité. À tout de suite.
Love had me blind, didn't see the context. That I fell for a boy with a God complex. Really had me working overtime. Cause I've been doing all of the sacrifices. Vampires, vampires sucking on my patience. I don't know, don't ask me, I don't know. How one can be so cold, baby, you're so cold. Who made them pseudo? It's too gone to rewind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind. Full speed on the way. Don't stop the boy, he can't stay. Done trying, it's a waste of time. He's a one-track Take myself out tonight. I'm gonna bring back focus to mine. Oh, la gaily, la gaily. If you say you love me, tell me why, baby, why do you make me cry? What about the things that you told me last night? Give you all my loving and you gave me goodbye. It's too gone to rewind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind. Full speed on the way. Don't stop the boy, he can't stay. Done trying, it's a waste of time. He's a one-track chéri, ou pas vous l'étendre, ou pas ouais gentil garçon ça pas mérité, ou get up shine chéri, ou toi fly, dilly bye bye baby, nous sommes l'autre bagaille.
La gueule, la gueule, la gueule, oh.
Pas bêtise, pas bêtise.
La gueule, la gueule, la gueule, oh.
La gueule, compa.
IDFM, 98FM.
Et nous retrouvons notre invitée Claire Elder. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de votre roman La botanique des amours perdus à retrouver aux éditions J'ai lu. Mais avant d'évoquer ce roman, est-ce que vous pouvez déjà nous parler en quelques mots de votre parcours? Est-ce votre premier roman?
Alors, bonjour Laurence tout d'abord et puis bonjour à vos auditeurs. Alors c'est mon premier roman publié. Il y avait eu un roman auto-édité auparavant, qui aura peut-être un futur, mais pour le moment, c'est mon premier roman édité, effectivement.
Alors cet ouvrage, pour celles et ceux qui connaîtraient déjà votre nom, on peut le préciser, il est déjà paru sous un autre titre.
Oui, il a été publié en grand format aux éditions La Tête, sous le titre Jardin Nomade, au printemps dernier.
Alors, c'est vous qui avez décidé de modifier son titre ou c'est juste un titre qui vous paraissait plus évocateur?
Alors, le changement de titre a une petite histoire. Oui. C'est que le roman a été traduit, entre autres en italien. Et en italien, ils ont modifié le titre. Ils ont choisi La Botanica degli Amori Perduti. Et ce titre a beaucoup plu aux éditions J'ai lu, qui a décidé de le reprendre. Voilà, et un choix que j'ai validé. Et c'est un joli titre aussi.
Et en effet, hein, ce titre, La Botanique des Amours Perdus, ça sera celui qu'on retrouvera en librairie aux éditions J'ai lu. Alors, l'histoire est assez, je dirais pas incroyable, parce que les histoires d'amour déçu, l'histoire de résilience, de reconstruction, il en existe. Or, celle que vous nous contez est des plus originales, car on va suivre Merel, ça va être la narratrice. On va la suivre découvrir une maison au bord de la mer, dont il faut tout refaire, à la fois dans la maison, mais surtout dans le jardin. Et le jardin, comme le titre l'explique, hein, ça va être le lieu d'inspiration, le lieu de reconstruction le plus important pour Merel, car on va découvrir au fur et à mesure de la lecture que c'était son métier, c'était ses études, c'était ce qu'il a forgé, cet amour des plantes, des fleurs. Et donc, on ne sait pas encore, à part évidemment cette reconstruction dans cette maison où on sent qu'elle a eu un drame, hein, dans sa vie. On va donc la suivre et on va la suivre dans ce dur travail lorsqu'on fait soi-même ses travaux d'intérieur et de jardin. C'est fatigant, c'est épuisant, on rencontre beaucoup de difficultés. Néanmoins, elle aura toujours ce temps pris pour écrire. Et on va la découvrir donc chaque jour écrire à un homme, il s'appelle Stan. Et on voit au fur et à mesure ce qu'elle lui raconte. Ça nous livre un peu plus de son passé, un peu plus de son vécu. Et nous, ça nous intéresse beaucoup en tant que lecteur. Mais qui est ce Stan? Pourquoi n'est-elle plus avec ce Stan? Et la lecture avance. Et chapitre après chapitre, on va découvrir de nouveaux personnages, plus ou moins dérangeant, entre guillemets, inquiétant, parce que c'est pas un roman d'amour, c'est un roman où il se passe beaucoup de choses, où il y a, je dirais presque, du suspense, parce que le passé est assez trouble, hein, pour notre personnage Merel. C'était ça aussi que vous vouliez, c'était ne pas rester dans un genre, vous vouliez parler de plusieurs, être à plusieurs genres différents?
Ça n'était pas du tout conscient. En fait, c'est quand les éditions La Poste ont eu ce manuscrit entre les mains qu'ils ont commencé à en parler comme d'un thriller botanique. L'expression était assez amusante, mais c'est vrai que cette histoire est arrivée vers moi tout d'un bloc. En fait, la première page qui est le début d'une lettre qu'elle écrit à Stan, est arrivé jusqu'à moi il y a un petit moment déjà, et puis ensuite toute l'histoire a suivi, et j'avoue que à chaque fois que je retournais à mon ordinateur pour écrire la suite, j'y allais comme une spectatrice de série avec une impatience et une inquiétude de savoir ce que les personnages avaient fait pendant que je ne m'en occupais pas, pendant que je ne les regardais pas. Donc c'est vrai qu'il y a cette dimension qui est venue de façon pas, comment dire, même pas tout à fait voulue, mais qui s'est imposée petit à petit.
Alors, ce qui est aussi formidable, c'est qu'on découvre chapitre après chapitre. Un petit souci. Oui. Vous êtes toujours là. Chapitre après chapitre, on découvre également à l'entrée, hein, un nom de plante avec son descriptif, sa définition. Sa description botanique, merci. Et qu'on va donc retrouver ensuite ou pas, hein, ça peut être important ou pas dans le chapitre qui va suivre. Et ce qui est formidable, c'est que comme le personnage, on va s'intéresser de plus en plus à botanique. En tous les cas, moi, ça m'a beaucoup plu de découvrir ces plantes, surtout qu'elles ont évidemment un sens. On va pas tout dévoiler, mais vous ne les avez pas choisies par hasard. Et puis, elles parlent aussi de soins, parfois dangereux, parfois bienfaisants. Comment ça s'est passé cette recherche ? Vous-même, vous venez d'un milieu de connaissances en botanique, ou ça a été vraiment un travail documentaire ?
Alors, plusieurs questions dans votre question. Alors, je commence par la fin. J'ai eu la chance dans mon enfance et puis mon adolescence de vivre avec mes parents dans différents endroits du monde où la nature est vraiment très puissante, très présente, assez exubérante, exotique, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai été sensibilisée à ça et j'ai une maman biologiste. Donc, je pense que tout ça était en arrière-plan dans ma tête. Quant aux plantes présentes dans le livre, c'est un peu comme les personnages qui sont venus à moi comme ça, tout équipés, d'un seul coup avec leur prénom et leur passé. Elles sont arrivées un petit peu les unes après les autres. Cela dit, pour quelques-unes d'entre elles, je ferai exception. Il y a une plante centrale qui s'appelle la cascavelle, que je laisserai découvrir au lecteur, qui joue un rôle assez important. Et c'est une plante que je connais bien, qui pousse à La Réunion, en Guyane. Il produit des petites graines rouges qui sont hautement toxiques, mais qui poussent dans tous les jardins. Il est utilisé un petit peu en sorcellerie aussi, je crois. Et voilà, donc les recherches, je les ai plutôt faites pour les plantes de la fin du livre. C'est-à-dire, en général, pour ce qui concernait la symbolique ou la légende de la plante, j'ai fait des petites recherches, mais assez rapides. Des plantes qui aident à oublier ou qui aident à se souvenir, des plantes qui permettent, je sais pas, de devenir invisible ou autre. Mais bon, c'est pas un manuel de sorcellerie du tout. Hein.
On est bien ancré dans
la réalité.
Voilà, mais ça nous met dans une ambiance où il y a aussi beaucoup de mystères, hein, parce que on découvre au fur et à mesure justement ce qui se cache derrière le passé de votre héroïne, mais aussi qui est ce Stan dont on apprend les choses qu'à travers les lettres que votre personnage principal écrit. Vous alternez justement ce présent avec ce passé. C'était aussi important comme ça de montrer cette évolution de Merel à travers son travail qui avance néanmoins. Et plus elle avance dans le temps, plus on replonge loin dans son enfance.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on la rencontre à un moment de sa vie où elle arrive peut-être à une période apaisée. Dans cette période, elle va, comme vous l'avez dit, réhabiliter une maison et un jardin, et chaque soir, écrire à ce mystérieux Stan. Et donc, ce sont, sur le plan de l'écriture, deux récits alternés. D'une part, le récit de son présent, et puis, le soir, ses lettres, deux récits qui se courent après, et finissent par former un tableau au final, à la fin du livre. Ces deux récits se rejoignent et toutes les clés nous sont données de cette histoire d'amour, oui, et aussi de l'histoire de cette femme, hein, parce qu'il y a plusieurs thèmes qui sont abordés, comme celui de la famille, qui est assez central aussi.
Oui, des traumatismes hein, de l'enfance qu'on peut parfois occulter, parce qu'un trauma, on a comme ce fameux déni, hein, et qui donc va, au fur et à mesure, on va le découvrir de quoi il retourne. Et puis, il y a une question aussi de personnages qu'elle va croiser dans son nouveau coin de paradis. Il y a notamment une femme qui s'appelle Nikki, elle aussi, hein, un personnage qui va un peu la bousculer.
Oui, en fait, dans cet isolement fertile, dans son jardin, elle souhaite rester seule et travailler sur à la fois ses lettres et son jardin. Et puis, une voix par-dessus la haie, c'est la voix de Vicky, sa voisine, une voisine qui l'appelle et qui va à la fois rentrer dans son jardin et rentrer dans son histoire, rentrer dans sa vie et bousculer un petit peu tout ce qu'elle avait cru tranquille. Et voilà, et tout remettre sur la table en fait, hein, de ce qui l'avait perturbé.
Alors, c'est un roman, on rappelle le titre, hein, La botanique des amours perdus, qu'on a du mal à lâcher parce qu'on veut justement découvrir ce que cachent les différents personnages. Et néanmoins, lorsqu'on arrive à la fin, on a aussi envie de le relire pour essayer de retrouver des clés que vous nous aviez comme ça, des indices que vous aviez glissés et qu'on se dit, mais bien sûr, et qu'on remet un peu comme un puzzle dont on aurait les pièces et qu'on se dit, tiens, je vais peut-être relire pour remettre. Et effectivement, là, c'était, on aurait dû imaginer, oui, enfin, en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai eu à la fin de la lecture de votre roman. C'est un roman qui est très visuel, hein, déjà avec la description des plantes, on les voit, on se dit, ah ben bien sûr, l'immortelle des dunes, elle est comme si, avec ses couleurs, ses formes, et puis ensuite on rentre dans ce petit paradis qui est en train de construire le personnage Merel, puis on plonge dans son passé, là aussi on voyage un peu, on va pas tout dévoiler, mais on voyage, ouais. Et c'est un très 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 bon roman. La botanique des amours perdus. Est-ce que vous avez été... Alors on sait qu'il a été traduit, mais est-ce que vous êtes approché, je ne sais pas, pour l'adapter?
Ben, pas encore, mais... Enfin, un petit peu, mais ça, pour le moment, ça n'a pas abouti, mais c'est vrai qu'on me dit souvent que c'est assez... Ça se prêterait une adaptation.
Oui, parce que
c'est mon vœu le plus cher. Hein. Ça pourrait être très chouette, effectivement.
Eh ben, franchement, ça mérite vraiment parce que c'est tous les ingrédients avec ce suspense, ce fil conducteur où on a presque peur pour nos personnages et pour cause. Et on se dit aussi que ça parle un peu à tous. Hein. On a tous une envie. On espère tous avoir le grand amour. Et puis quand il est déçu. Quand il arrive quelque chose qui rompt cette belle histoire, on va en savoir plus et ça nous, comme ça, ce sont des personnages qu'on lit et qu'on est presque aussi rencontrés. Et puis cet amour hein, des plantes qu'a votre personnage, je pense qu'aujourd'hui tout le monde le partage, cet amour de la nature qui nous reconnecte un peu avec nous, avec le passé. C'est un très beau roman, La botanique des amours perdus. Alors vous évoquez en début que vous aviez écrit avant La botanique des amours perdus un précédent ouvrage, mais pas édité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que ça sera le prochain?
Je ne pense pas. Je pense qu'il va rester un petit peu en dormance comme une petite graine qui peut-être refleurira un jour. Mais non, j'ai un autre roman, un autre manuscrit que je viens de terminer et voilà, qui va peut-être être très, très, très certainement le prochain.
Voilà. On peut
un peu bousculer l'ordre. Et juste une petite chose à propos de la botanique. Hein. Certes, on parle d'amour et de jardin, mais c'est loin d'être une histoire à l'eau de rose.
Non,
jeu de
oui.
Et c'est un peu.
Disons que c'est une belle histoire dans le sens il y a des sentiments. Mais comme toute histoire d'amour, il peut y avoir des passions dévorantes, des gestes. Violent, enfin, il peut y avoir tous ces ingrédients dans une histoire d'amour et c'est ce qu'on peut retrouver dans celle qu'on va lire. Évidemment, hein, c'est pas de la chiclite, hein, c'est pas de la littérature à l'eau de rose. On est, comme vous le rappeliez, très loin et c'est ce qui en fait tout le sel et tout le piment parce que on s'attache à votre personnage féminin et on s'intéresse aussi à son amoureux pour en savoir plus. Que s'est-il passé pour qu'ils soient séparés et évidemment pourquoi être parti dans cet isolement à la fois psychologique et physique pour le personnage de Merel. Et c'est un petit bijou de roman à lire là. Ça va être les vacances, l'occasion de passer un très bon moment en compagnie de vos personnages en attendant donc un prochain roman qui sortirait peut-être en 2027 ou...
Ben, ça, c'est une chose que je ne peux pas maîtriser.
On reviendra vers vous. Vous êtes vous-même sur les réseaux sociaux pour suivre votre actualité, par exemple, une rencontre lors d'une sortie en librairie
Oui, bien sûr. Bon, alors, les réseaux sociaux sont faciles à... Je suis facile à trouver. Claire Elder 23 sur Instagram, sur Facebook, et puis sur YouTube, il y a eu quelques vidéos récentes faites par Babelio où j'ai lu où vous pouvez voir ma tête.
Et échanger, hein, si on veut comme ça, commenter vos personnages ou donner des idées, peut-être pour les retrouver dans un autre roman. On clique, hein, votre nom sur un moteur de recherche et on vous retrouve facilement. Eh bien, en attendant de vous retrouver en librairie pour un autre roman, on peut tout de suite découvrir La botanique des amours perdus, un très bon moment de lecture. Il fait, avec ces chaleurs, c'est l'occasion de s'enfermer au frais et partir découvrir vos personnages passionnants et qui nous font vivre des moments de suspense qui devraient beaucoup plaire aux amateurs. Merci à vous, Claire Elder, et on se dit à bientôt.
Merci.
Et c'est paru aux éditions J'ai lu, donc un format poche qui rentre dans la valise. Si vous partez, vous avez la chance de partir en vacances, vous allez passer un très bon moment avec notre autrice Claire Elder. Merci à vous, à bientôt.
Merci beaucoup, merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Cherche un truc pour m'emmener plus haut. Embrasse-moi encore, donne des ailes à mon cœur stone. Donne des ailes à mon cœur. Embrasse-moi toujours. Jamais aucune excuse en amour. Donne des ailes à mon cœur. Excuses for love. You and I need no excuses for love.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Et nous retrouvons notre invitée Carole Collinet. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes au scénario d'un magnifique album de bande dessinée qui s'intitule Les Irradiés de l'île Longue, enquête sur un silence d'État. C'est paru aux éditions d'Argo et au dessin, on retrouve Éric Appéré. Alors, avant d'évoquer cet album, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Vous n'êtes pas scénariste de BD à la base, vous êtes journaliste.
Oui, je suis journaliste en Bretagne depuis une quinzaine d'années et journaliste tout court depuis les années 90.
Et pour cette histoire, vous avez décidé de choisir l'album de bande dessinée pour raconter cet épisode douloureux de notre histoire ?
Alors, j'avais déjà fait des reportages sur ce sujet, hein, comme je le raconte dans le livre. Et oui, j'ai eu envie, à partir de 2017, de mettre cette histoire-là en BD. On a commencé petit avec la revue brestoise Casier, qui était une revue de bande dessinée. On a proposé un scénario de 8 planches autour de ce sujet, donc loin d'être exhaustif. Et à partir de ce petit scénario, en fait, est née l'idée d'aller plus loin et de faire cette BD.
Alors justement, vous vous mettez en scène, hein, dès la première planche, au commencement. On vous découvre très à la fois surprise et un peu choquée, parce que pour enquêter sur place, in situ, il faut prendre des comprimés en cas de rejet radioactif.
C'est assez... Alors non, en fait, on a eu une distribution à Brest de pastilles d'iode, comme on en avait eu une il y a, je crois, une dizaine d'années. En fait, c'est une distribution qui est opérée par le biais du ministère des armées. Donc ça, c'est chacun fait comme il veut. Ah, oui, il va chercher sa boîte à la pharmacie ou pas. Et comme au moment de la rédaction du scénario, on était en plein dans le début de cette campagne, j'ai eu l'idée de l'ajouter comme, on va dire, point de départ du livre pour amener petit à petit l'îlon, puisque nous, on a ces distributions de pastilles d'iode ici à cause de la présence de la base opérationnelle des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins.
Alors justement, on revient au commencement. On est dans les années 60. C'est le général de Gaulle qui est au pouvoir, et c'est l'époque, la grande époque de la dissuasion nucléaire, et forcément la France fait partie de ces rares, très rares pays à posséder cette arme nucléaire, et il choisit donc cette région de France pour faire cette construction de sous-marins, de lanceurs d'engins. Là, c'était, on le rappelle, une époque, les années 60, où ça, on ne se posait pas trop la question où ça serait.
En fait, la dissuasion nucléaire en France à cette époque existait déjà avec les avions et le plateau d'Albion. Et De Gaulle voulait doter effectivement la France d'une dissuasion nucléaire océanique. Donc, il était en visite le 15 février 1965 du côté de l'école navale de Lanvéoc-Poulmic, qui se trouve sur la presqu'île de Crozon. Et donc, il a eu ce mot, la géographie a peut-être fait de Brest un haut lieu de notre destin. Il a donc choisi de créer cette base opérationnelle des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui allait être une nouvelle composante de la dissuasion nucléaire française au large de Brest, donc sur cet îlot où habitaient des gens qu'il a fallu exproprier. Donc on raconte aussi dans la BD ces expropriations et aussi la création de comités hostiles à l'implantation de cette base, puisque les gens posaient déjà à l'époque la question de la des risques. Du danger, d'accident. Donc évidemment, toute cette mobilisation citoyenne n'a pas fait fléchir De Gaulle, et donc la construction de l'île longue, le chantier a commencé le 1er août 67 et il a duré quelques années. À l'époque, c'était d'ailleurs le plus grand chantier d'Europe.
Alors justement, vous avez décidé de raconter l'histoire de cette île longue pour les générations d'aujourd'hui et les générations à venir, car finalement, on a du mal en France à enquêter sur ces sujets, à informer les Français de ces risques, du fait qu'il y ait ce type d'industrie, entre guillemets, à risque sur notre territoire.
Alors, qui plus est, quand il s'agit du nucléaire militaire, parce que là, on est sur du secret défense, on est sur la dissuasion nucléaire qui reste très, très, très secrète. L'île Longue, c'est le site le mieux gardé, le mieux surveillé de France. Effectivement, c'est compliqué parce qu'on le voit dans la BD pour obtenir des réponses sur ce qui s'est passé entre 1972 et 1996 sur cette île, à savoir que des ouvriers ont assemblé et démonté les têtes de missiles, les têtes des missiles nucléaires qui sont chargées à bord des sous-marins. Ils ont fait ce travail à main nue, sans protection aucune, et sans même avoir été mis, sans même avoir connaissance des risques, puisqu'on leur disait que ça rayonnait pas plus que du granit ou un morceau de bois. Donc oui, c'est compliqué d'aller chercher des réponses auprès de l'État et de la Marine nationale sur cet épisode précisément et sur globalement l'île Longue, puisque c'est pas un lieu qu'on visite à moins d'y être invité. La pyrotechnie où sont assemblés et démontés les missiles, c'est un lieu où on n'entre pas. C'est très sanctuarisé la dissuasion nucléaire, ça on le sait. Et donc à obtenir des réponses sur qui s'est passé entre 1972 et 1996 de la part de l'État et de la Marine, c'est impossible. En tout cas, on le voit dans la BD que j'ai bien galéré, je les ai relancés, j'ai eu des contacts avec eux, que ce soit par mail, par téléphone, sans jamais obtenir de réponse à mes questions. Et mes questions portaient sur ce sujet central des rayonnements qu'ont subi les ouvriers d'État entre 1972 et 1996.
Et puis vous parlez aussi du cynisme de l'État lorsqu'il y a des procès. Chaque fois on rajoute des expertises médicales alors que la plupart sont, si ce n'est déjà morts, sur le point de l'être, tant ils ont des maladies, des cancers, des leucémies, etc.
Oui, parce que c'est les questions que j'ai posées à l'avocate de l'association qui défend les dossiers, de l'association Henri Pédra, qui défend les dossiers en justice. C'est vrai que moi, quand en 2013 j'assiste pour la première fois à un procès qui concerne ces dossiers-là, j'ai vraiment eu le sentiment que l'avocat de l'État était là pour jouer la montre, sachant que la personne qui était là et qui était toujours en vie, je ne sais pas s'il y avait un cynisme volontaire, mais on a le sentiment que les procédures durent de toute façon très longtemps, c'est ce qu'explique cette avocate. Et il y a un cynisme de l'État et je dirais une forme de mépris aussi pour ses ouvriers.
Et on va découvrir justement avec différentes scènes que vous rappelez lorsque ces hommes et ces femmes se trouvent face à la maladie, face à des médecins, face à des questions, à des comportements qu'ils ont eus qui étaient des plus inoffensifs. Or, dans un contexte radioactif, les rendait extrêmement dangereux. C'est aussi ça met la larme à l'œil lorsqu'on est lecteur, parce que on se dit, comme vous le rappelez, quel mépris, quel
Oui, parce que en réfléchissant à cette histoire, alors j'ai rien dévoilé, je ne m'approprie pas ce travail-là, puisqu'il a été mis au jour les syndicats en fait, et par les élus de CHSCT, par des ouvriers qui ont découvert ce dosifilm par terre qui semblait d'une couleur anormale, alors qu'eux-mêmes ne portaient pas de dosimétrie individuelle, ils n'étaient pas qui ne protègent de rien d'ailleurs, mais qui pouvaient je me suis dit, mais c'est fou, parce qu'on a le sentiment que dans cette dissuasion nucléaire, on oublie aussi les ouvriers qui y travaillent. Ils sont en quelque sorte invisibilisés, on silencie aussi ce qui s'est passé à ce moment-là pour eux. Et oui, je pense qu'on est vraiment dans un... Voilà, c'est le dogme de la dissuasion, c'est au-dessus de tout, quoi. C'est une raison d'État, enfin, c'est quelque chose qui va au-dessus de tout, y compris des vies humaines.
Et c'est pour ça, vous rappelez qu'à un moment dans cette enquête, vous avez besoin de prendre une pause parce que ça pèse sur votre propre morale. Et vous rappelez un mensonge d'État, l'armée c'est la grande muette, le nombre de morts. Vous rappelez aussi des courriers reçus par les victimes.
Oui, c'est des courriers qui m'ont été remis par la CGT de l'Arsenal. D'ailleurs,
qui sont des plus laconiques. Qui sont des plus laconiques. C'est vraiment c'est en quelques mots. C'est le minimum syndical, si je peux me permettre.
Il y a un courrier, en tout cas, on en parle parce qu'il a été envoyé à ce monsieur venait à peine de mourir que le courrier est parti du ministère de la Défense à l'époque. Hein. C'était Michel Alliot-Marie qui le signe et qui envoie ses condoléances sincères à cette personne, à cette dame qui a perdu son mari, qui vient de mourir d'une leucémie foudroyante. Et c'est des courriers qui ne sont jamais... Enfin, je pose la question du coup aux personnes aux anciens représentants de la CGT de l'Arsenal, je leur pose cette question. Est-ce que c'est habituel ce genre de courrier pour un civil? Et les deux me disent non, pas du tout. Donc la question, elle est là aussi. Comment ils ont su que ce monsieur était décédé? Comment ils l'ont su tout de suite? Et surtout, alors qu'aucune démarche de reconnaissance de la maladie professionnelle n'avait encore été engagée par le syndicat, donc par la famille. Donc il y a toutes ces petites choses mises bout à bout qui font qu'on peut se poser des questions. Alors moi, ça m'a pas non plus pesé. Alors on a aussi fictionné hein, les séquences où je me pose des questions parce que il fallait les amener ces questionnements-là pour comprendre un petit peu tout le déroulé du récit. Donc on a effectivement pour le coup fictionné certaines scènes, on se pose des questions Eric et moi ensemble, ou moi je me les pose toute seule. On a mis ces petites scènes un petit peu du quotidien en fait, pour montrer que ça permet d'amener aussi toutes les questions que je vais poser. C'est une sorte de sommaire, on va dire, dessiné, et c'est toutes les questions finalement qui vont être posées tout au long de l'album aux personnes qui, elles, travaillent sur ces dossiers-là, ont mené des études sociologiques sur ce dossier-là. Donc moi, je suis allée voir finalement, en tant que journaliste, je suis allée poser des questions aux personnes qui connaissent ce dossier-là, et qui c'est pour ça qu'on est dans un jeu de questions-réponses, et le choix d'être de s'intégrer, on va dire, nous, le dessinateur et moi, à l'album, c'est pas un choix pour se mettre en avant, mais ça permettait aussi d'incarner cette enquête en fait, et de finalement permettre au lecteur d'être à notre place et de rentrer dans l'enquête pour montrer aussi toutes les difficultés qu'on a pu avoir auprès de l'État, toutes les difficultés pour dessiner aussi quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas visiter, montrer les échanges de mails, pouvoir intégrer quelques documents d'époque. Donc ce récit à la première personne, il est très adapté très adapté à la BD, quoi.
Oui, puis ça nous rend encore plus le drame qui se joue hein, auprès de ces hommes hein, qui disparaissent les uns après les autres de maladies les plus douloureuses, les plus tragiques. Ça nous les rend encore plus... Enfin, ça nous met dans l'empathie. On se dit ils ont cru servir leur pays. Et puis, pour quel résultat? Ils tombent malades, ils ne sont même pas reconnus, ou à titre posthume, entre guillemets, là, comme vous parliez tout à l'heure de la lettre qui a été reçue, la lettre de condoléances qui a été reçue, alors même que, à la grande surprise de la famille. Il y a aussi ces procédures qui font que tel cancer ne rentre pas dans certaines catégories. C'est vraiment très, très dur à lire. Hein.
Oui, parce qu'en fait, pour les ouvriers d'État de l'île Longue, donc ceux dont on parle et qui ont subi les rayonnements entre 1972 et 1996, c'est vrai que pour eux, il y a seulement trois cancers qui sont reconnus, qui figurent dans ce fameux tableau numéro 6 de la Sécurité sociale, alors que pour les victimes des essais nucléaires, 23 cancers sont reconnus via la loi d'indemnisation dite loi Morin de janvier 2010. Donc c'est vrai que la question qui se pose et qu'il pose, c'est pourquoi 23 cancers d'un côté et pas nous, quoi. Et il y a cette injustice-là aussi qui est vécue par les familles, par les personnes qui sont malades. Pourquoi d'un côté 23 cancers, pourquoi nous 3 cancers, quoi. Donc ça, c'est aussi un autre cheval de bataille du collectif qui porte les dossiers en justice. Voilà, moi c'est vrai que quand j'ai découvert cette histoire, je l'ai pas découverte au sens où c'est moi qui l'ai... comme je disais tout à l'heure, mais quand je suis allée la première fois couvrir un procès de ce monsieur qui était malade et qui venait faire reconnaître sa maladie professionnelle au tribunal de Brest, c'est là qu'en discutant avec les uns et les autres dans la salle des pas perdus, j'ai compris qu'il n'était pas le seul. Enfin, en tout cas, ils m'ont expliqué qu'il n'était pas le seul. Et là, j'ai pris la mesure, moi qui ne suis pas du tout de Brest, je découvrais en même temps Lyon, quoi, puisque j'étais arrivée peu de temps avant sur Brest.
Et ce qui est assez incroyable aussi, c'est lorsque, parce qu'on voit donc votre travail d'enquêtrice, de journaliste, vos renoncements, au contraire, mais vos interrogations sur le fait que c'est très compliqué. L'illustrateur, j'aime beaucoup cette image de vous où vous roulez tel un hamster dans sa roue, parce qu'en fait, vous comprenez que. C'est sans fin, c'est-à-dire que vous avancez contre un mur, hein, vous êtes au pied du mur, vous n'arrivez pas à passer ce mur, malgré le fait que vous soyez reçu à Paris auprès du Cercle National des Armées, et au final, pour rien, parce qu'on vous empêche de faire des photos, on vous empêche d'enregistrer, on vous met des bâtons dans les roues, et au final, c'est vous retrouvez comme les victimes, comme ces irradiés qui n'arrivent pas à arriver à...
Alors, je ne vais pas me mettre au même niveau que...
Non, mais je veux dire, on comprend, on se met un peu à leur place, qui, eux, sont malades, qui, eux, souffrent. Vous, c'est votre métier de journaliste, vous persévérez, et malgré votre volonté, votre hargne, c'est votre travail, hein. Et bien, même vous qui avez ce professionnalisme, vous n'y arrivez pas, alors que eux, ce sont des ouvriers, donc ils n'ont pas cette capacité.
Ils sont bien encadrés, ils ont quand même une association.
Oui, bien sûr, mais je veux dire, ils n'ont pas plus.
Les avocats,
oui. Oui, mais vous n'avez pas plus de réponses qu'eux, alors qu'on se dit peut-être que le métier de journaliste va pouvoir enfin leur permettre, parce que souvent, lorsqu'on éclaire une affaire via les réseaux médiatiques, c'est un peu d'espérance, hein, pour certaines victimes. On voit les affaires précédentes.
Oui, on espère. Mm. Je vous cacherai pas que j'ai espéré bien naïvement obtenir des réponses, même si déjà j'ai espéré pouvoir poser déjà mes questions,
oui.
Les bonnes questions et pas celles qu'on aimerait que je pose. Mais finalement, j'ai jamais pu clairement les poser. Alors que quand j'ai contacté l'État, enfin le ministère des Armées et la Marine nationale, ils savaient très bien sur quel sujet je travaillais. Dans les courriers, je n'ai jamais caché que je leur ai pas dit tiens, j'aimerais bien visiter Lyon juste comme ça, quoi. Non, j'ai quand même été très transparente avec eux. Quand je suis allée à Paris, je leur avais transmis les questions que j'avais l'intention de poser à ce monsieur. Et c'est vrai que, au final, tout se casse la figure parce que je peux plus le citer, je ne peux plus citer le service dans lequel il travaille, je ne peux pas utiliser l'enregistrement que j'ai fait de notre entretien, mais je dois juste utiliser les réponses écrites qu'il m'a fournies et qui ont été, je pense, lu par ses supérieurs avant qu'ils me rencontrent. Donc on est dans un truc en fait où on a l'impression de se faire balader, hein, on le dit, ils nous ont fait courir en fait. Et je ne peux pas me mettre à la place des familles ni des victimes parce que ce serait déjà malvenu, mais j'imagine même pas eux ce qu'ils doivent ce qu'ils doivent traverser, en plus de la douleur, en plus de la maladie, d'avoir comme ça face à eux, comme vous dites, une espèce de montagne de silence, quoi.
Et puis c'est injustice parce que même à la fin de votre album, vous rappelez les jugements de trois cas,
oui.
Et de trois dossiers. Et,
le dernier, oui.
Et on se dit, pour l'un, l'État fait appel. Pour un autre, l'État n'a pas fait appel. Là encore, ça doit être aussi, ça doit leur poser beaucoup de questions. Ça doit leur donner encore un petit coup derrière la tête de se dire ça n'est jamais fini, quoi. On n'arrivera jamais au bout.
Non. La Marine nationale me dit que c'est une histoire qui appartient au passé. Alors évidemment, on sait tous, évidemment 1972-1996, on est tous d'accord pour dire que c'est dans le passé, sauf que l'histoire elle est bien bien actuelle, puisqu'il y a toujours des dossiers en cours, des procédures qui sont en cours. Moi j'ai pas listé tous les jugements dans la BD parce que je pouvais pas être exhaustive non plus, et que on a fait vraiment un livre qui retrace, qui retrace dans son ensemble toute cette histoire. Et donc On parle d'un jugement dans le livre et on a actualisé à la fin avec, depuis le jugement du 2 juin 2022, on a mis les derniers jugements en fait qui ont été prononcés. Bon, il y en a eu d'autres avant, hein, évidemment, le mois de juin 2022. Mais c'est vrai que la question de voir que l'État fait appel par moment ou ne le fait pas, pour quelles raisons, ça je ne sais pas du tout. Mais ça pose des questions, comme vous dites.
Et c'est formidable. On rappelle le titre, Les Irradiés de l'île Longue. Enquête sur un silence d'État, c'est à la fois édifiant. On se rend compte combien les secrets hein, de l'État français et encore plus sur ce qui est question du nucléaire, bah, tout cela est bien occulté pour le grand public. Et c'est d'autant plus tragique pour celles et ceux qui ont travaillé dans ces années-là et qui en subissent chaque jour les conséquences. J'imagine que après avoir écrit cet ouvrage, vous avez eu besoin de faire une petite pause parce que ça doit être bien lourd, je ne sais pas.
Je ne vous le fais pas dire. Et puis, oui, bah moi, ça fait un petit moment que le scénario, je l'ai écrit. C'est plutôt le dessinateur qui, lui, a vraiment besoin de faire un break parce que, évidemment, le dessin, ça va... a pris plus de temps, il y a plus de travail à faire sur le dessin et toutes les recherches qu'il a pu faire, graphiques et tout. Donc là, ouais, lui aussi, il a besoin de bien se reposer.
Alors, est-ce que vous avez aimé votre représentation en bande dessinée? Votre portrait,
ah, oui.
Comment il vous a
représenté? Je trouve qu'il nous
croque bien.
Je dis pas qu'il est complètement proche de ce à quoi on ressemble, mais c'est son trait. Donc voilà, moi, j'ai pas, puis bon, on est un couple, hein, donc on travaille ensemble, donc moi ça m'a fait marrer, il y a certaines scènes qui m'ont beaucoup, il y a des cases qui m'ont beaucoup amusée, comme
oui, parce
le chat,
c'est très pesant dans le sens, bah, l'histoire est tragique, et néanmoins, lorsque il y a des respirations dans la lecture, grâce notamment à votre entre guillemets personnage, et c'est très 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 bien fait. On voit par exemple lorsque vous entrez dans un bureau, vous claquez la porte et on voit le chat qui est projeté à quelques mètres. Le pauvre, il a rien compris, et c'est permet aussi un peu de respirer, hein, dans la lecture, parce que on voit que c'est très difficile, hein, d'enquêter et de rencontrer ces victimes qui s'acharnent à voir la vérité, et c'est formidable, c'est prodigieux. On vous l'avait rappelé, hein, vous avez fait de nombreux articles sur le sujet. Le fait de l'avoir adapté en bande dessinée, est-ce que, parce que je ne sais, j'ignore si ça pourrait être adapté, je ne sais pas, en film, ou en
Alors ça, j'en sais. Alors là, animé. Vous me posez une colle. Moi, je ne peux même pas répondre à ça, parce que nous, on a surtout fait cet album pour rendre hommage au combat des familles et des victimes et au travail réalisé par toutes les personnes que j'ai interviewées pour cette BD et qui apparaissent dans la BD. Donc c'est vraiment un hommage à ce combat et pour mettre en lumière et donner un écho plus fort à leur combat, la BD c'est vraiment le je dirais le média idéal. Pour la suite, j'y pense même pas parce que voilà, le livre il vit sa vie, chacun va s'approprier cette histoire. Moi, elle n'appartient ni à Eric ni à moi. Elle est du domaine public en plus, puisque c'est une histoire qui est connue ici et sur laquelle les médias ont déjà écrit. Mais je trouvais que faire une BD pour donner un coup de projecteur et surtout avoir une sorte de chambre d'écho sur ce combat-là, c'est l'idéal, quoi. Le reste, je peux pas vous dire et j'y pense même pas en fait.
Et en attendant, nous, on va se précipiter en librairie découvrir Les Irradiés de l'île Longue. J'aime beaucoup aussi votre épilogue qui en dit long, hein, lorsque l'on enquête sur des sujets aussi, où certains pourraient penser à du complotisme, où certains pourraient imaginer que cache la grande muette. Et j'ai beaucoup aimé la dernière planche parce que ça évoque le côté où on devient un peu parano parce qu'on se dit est-ce que les gens cherchent après nous savoir ce qu'on a trouvé. Et je trouve ça très très bien amené parce que aujourd'hui c'est ça le métier de journaliste, hein. C'est essayer d'éclairer les ondes sombres de notre actualité tout en craignant d'être rattrapé par celles et ceux que vous dénoncez.
Oui, de toute façon, on sait que le livre ne plaira pas à tout le monde, mais il y aura toujours des gens pour le critiquer. Mais bon, comme moi, tous les livres ne me plaisent pas, tous les films ne me plaisent pas, toutes les musiques ne me plaisent pas. C'est très subjectif. Mais je voulais aussi souligner la couverture, moi, parce que je trouve qu'elle est hyper symbolique d'avoir mis des ouvriers sur un sous-marin, le truc qu'on ne verra jamais, puisque en général, ce sont les sous-mariniers, les militaires qui sont sur le sous-marin. Là, on a voulu vraiment jouer sur les symboles, quoi. Ouais. Les gars en bleu de chauffe sur un sous-marin nucléaire lanceur d'engins dans la rade de Brest. Donc ça, c'est, je trouve, une image forte aussi.
Oui, parce que c'est eux les héros de votre ouvrage, Les Irradiés de l'île Longue. C'est formidable, c'est par aux éditions d'Argo. Merci à vous, Carole Collinet. On dit aussi bravo à Eric Appéré qui a fait un travail prodigieux où on découvre page après page, grâce aux traits très expressifs des personnages, leurs humeurs, leurs désarrois, leurs désespoirs, aussi quelques moments de respiration, comme on l'évoquait tout à l'heure, aussi vous donnez des images d'archives, des tableaux qui permettent aussi de voir la réalité des faits. Hein, c'est aussi documentaire, hein, votre album. Et on se met effectivement dans vos chaussures de journaliste enquêtrice et c'est très très bien fait. Les Irradiés de l'île Longue, je rappelle, c'est par aux éditions d'Argo. Pour celles et ceux qui nous écoutent sur internet, vous pouvez aller sur le site d'argo.fr et puis sinon je vous invite tous à aller en librairie vous le procurer. Cette entrée en bande dessinée, est-ce que ça vous donnait envie d'en scénariser d'autres?
Oh oui, pourquoi pas. Pour l'instant, ce sera peut-être pas un sujet aussi lourd, mais ça m'a bien plu, en fait, parce que c'est ma première vraie BD, en fait. Hein. J'avais peut-être fait 8 planches. Ah oui, on avait fait aussi 23 planches pour la revue dessinée, mais j'avais jamais fait un livre complet. Et c'est un travail fastidieux, mais on a été super bien accompagnés par notre éditrice Clotilde Palua chez Dargo. Et moi, ça m'a plu, en fait, de mettre un pied dans le monde de la bande dessinée comme ça. Alors, pourquoi pas d'autres sujets que je traiterai aussi soit sous l'angle de la fiction, soit sous l'angle du journalisme. J'ai pas encore décidé, mais déjà, il faut que cette BD-là, elle vive, quoi.
Oui, et ben justement, vous souhaite beaucoup de succès et on va en librairie découvrir Les Irradiés de l'île Longue. Merci encore à vous, Carole Collinet. On rappelle, hein, vous êtes journaliste et la scénariste de cet album de bande dessinée. Au revoir.
Au revoir, merci.
Merci, au revoir. I'm chasing the tide, it's calling me loud. Feet on the sand, heart in the clouds. The rhythm it pulls like a whispering vow.
Île-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Et vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Les mots des livres pour cette dernière de la saison. Évidemment, les vacances approchent, peut-être pour partir l'esprit léger, néanmoins studieux, je vous propose trois livres vacances que vous pourrez retrouver au rayon des éditions Nathan, avec Nathan Vacances pour les adultes. Et il y a donc différents types de livres, enfin de cahiers de vacances. Il y a 100% jeu, dans lequel vous allez retrouver 120 mots fléchés, des jeux de logique pour s'amuser tout l'été. Vous aurez même des quiz, des mots mêlés, des sudoku, des hachis. Enfin bref, vous aurez tout pour passer un bon moment sur votre lieu de vacances, ou si vous n'avez pas la chance de partir en vacances, eh bien, pendant vos moments libres. Évidemment, comme tout livre de cahier de vacances, vous avez les corrigés à la fin. Autre titre, si vous n'aimez pas les jeux, bien là, vous pouvez partir en France avec des exercices, des quiz et des jeux pour s'évader, se cultiver autour de la culture générale, des loisirs, de la nature, de l'histoire géo. Par exemple, si vous voulez en savoir plus sur le monde gastronomique, les chouchous, vous savez ce qu'on retrouve sur le bord de mer, et bien là vous allez découvrir toute une double page autour des desserts, des bonbons, des quiz glacés. Ensuite vous allez partir pour les festivals, pour les forts, pour les maisons atypiques, pour le plein air, pour bref. Là encore, un bon moment à passer à la découverte de nos territoires, que ce soit culturel, gastronomique, naturel, c'est vraiment formidable. Et là encore, des réponses à la fin, une manière de s'évader autrement grâce à ce cahier de vacances que vous pourrez retrouver au prix de 6,95€ en librairie. Et pour celles et ceux qui préfère tout ce qui est, vous savez, thriller, polar, policier, eh bien, toujours dans cette collection de cahiers de vacances, Nathan Vacances Adultes, ce sont des jeux et énigmes pour trouver les coupables. Alors là, il s'agit de 22 enquêtes policières, avec à chaque fois des questions d'observation, de déduction, avec des énigmes, je le disais, avec des mystères. C'est très drôle, c'est très bien fait. C'est un moment à passer en famille ou tout seul, hein, avec les cahiers de solutions à la fin. Je pense que celles et ceux qui l'auront entre les mains vont passer de très bons moments de détente. Nathan Vacances, ce sont donc des ouvrages pour les grands, pour les adultes. Bah, c'est loin des cahiers de vacances pour enfants. Et c'est l'occasion de passer un bon moment pendant cet été. Je rappelle le prix, 6,95€ le numéro. Et donc vous avez 100% jeu, vacances en France, spéciale enquête, bien d'autres aussi. Si vous allez en rayon, en librairie, vous allez les découvrir. Et bien voilà, l'émission se termine. L'heure pour moi de vous rappeler que nous étions avec Claire Elder, l'autrice du roman La botanique des amours perdus, sorti aux éditions J'ai lu. Puis nous étions avec Carole Collinet, la scénariste de l'album de bande dessinée Les Irradiés de l'île Longue, enquête sur un silence d'État, dont le dessin est de Éric Appéré, un ouvrage à retrouver aux éditions d'Argo. Puis nous avons parlé de trois cahiers de vacances des éditions Nathan, à retrouver aux éditions Nathan et en librairie. Merci encore à tous pour votre fidélité, merci à tous pour votre écoute. Merci également à Francky pour la réalisation de cette émission, à retrouver en podcast sur le site idfm98.fr. C'était l'émission spéciale été. Alors pour moi, de vous souhaiter de très belles vacances pour celles et ceux qui en ont, et pour les autres, hein, de passer de bons moments de lecture pour faire passer le temps. Et j'espère à vous, rendez-vous à la rentrée. Au revoir.